c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boudani.
Bonjour à tous.
Avec Alison Wheeler.
Bonjour.
Notre ami allemand Daniel Morin.
Bonjour, bravo Daniel.
Et Charlotte qui nous accompagne au clavier. Et nos invités sont Anne-Marie Vin et Mehdi Saloun.
Bonjour
à tous.
Babyphone, c'est le film pour lequel nous vous avons invité. Ce film sortira la semaine prochaine avec Pascal de Molon, Lannick Gautry, le beau gosse de service avec évidemment Mehdi Saadoun, Michel Jonas, bah évidemment, Michel Jonas, excellent Marie-Christine Adam, excellente Barbara Schultz, inquiétante puis excellente dans le film, je n'en dis pas plus. Bref, toutes les bonnes raisons de vous accueillir dans cette émission. J'espère, mon cher Daniel Morin, que... Parce que le père Albert n'a pas pu venir aujourd'hui,
non,
c'est ça?
Non, grosse contrariété.
Est-ce que vous avez, ou est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi nos invités étaient là aujourd'hui?
Absolument, tout à fait. Et je vais rester fidèle à la pensée du père Albert, vous savez, mon confesseur et ami, en vous lisant ce texte qu'il m'a fait parvenir.
C'est élégant de sa part.
Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi nous avons invité Anne-Marie Vin et Mehdi Saadoun. Une charge d'une telle importance en début d'émission, il va de soi qu'il n'y a qu'à moi qu'on pouvait la confier. Primo, parce que déjà, Nagui, vous m'avez confié ne rien avoir compris au film, et surtout ne pas apprécier le travail des acteurs. Enfin bon, voilà, ça me regarde. Secondo, faire confiance à votre équipe de branquignoles, pour ne pas dire de bras cassés, celle qui vous entoure, pour vous aider dans votre entretien avec Anne-Marie Vin et Mehdi Saadoun, ça révélerait du suicide médiatique. Je vais donc de ce pas vous faire le pchit de Babyphone.
Non, le pitch. Oh,
taisez-vous. Pchit. Voilà, beaucoup plus moderne de dire le pchit. Ben, Charlotte et leur bébé forment apparemment une petite famille sans histoire. Style de famille, un papa, une maman, un papa. Une famille classique comme on les aime ici à la bande originale et plus généralement.
Et sur Radio Courtoisie.
Sur France Inter. Et chez nos amis de Henri Delesquin sur Radio Courtoisie. Delesquin qu'on reçoit la semaine prochaine, évidemment.
Tu parles.
Mais Ben a du mal à s'imposer dans le monde du cinéma. Comme compositeur de films, il a choisi comme parrain du bébé, Simon, un ami d'enfance qui s'occupe d'une chanteuse à succès. Ben veut profiter des réseaux de son copain. Il l'invite à dîner en usant d'un subterfuge tendancieux, puisqu'il fait croire à son ami que son père est mourant.
C'est moche.
Le soir du dîner, Simon a un autre ami, Nathan. Il se retrouve dans la chambre du bébé, et révèle une tromperie.
Attention, j'ai l'impression que vous allez très très loin là. Faut pas tout dire, hein.
Faut pas spoiler
le film, hein. Attention, hein.
Je suis là pour tout dire.
Ah, non. Et je suis là pour vous arrêter.
Eh ben, vous avez bien fait. Une révélation.
Vous allez le dire.
Oui, exactement.
Une révélation
qui arrive aux oreilles des principaux intéressés. On ne dira pas laquelle. Voilà. Par l'intermédiaire d'un babyphone. Tout le titre du film.
C'est ça.
Babyphone. Qui est
alors, pour ceux qui ont l'âge d'écouter France Inter et un babyphone, on rappelle que c'est une espèce de talkie-walkie qui surveille la présence d'un enfant qui n'existait pas. Ça n'existait pas il y a quelques années quand même, ce genre d'appareil.
Ça fait un moment quand même.
Ouais. Vous êtes né en 1960, Nagui, parce que ça existe quand même, à mon avis, depuis 30 ans.
C'était pour les riches.
Si tu cherchais à faire une vanne, oui, je suis né dans les années 60.
Non, enfin, je veux dire, vous étiez parents dans les années 60. Ça fait hyper longtemps que ça existe, le babyphone.
Moi, j'étais des parents vigiles, ils mettaient les talkie-walkie.
Ça coûtait super cher et ça s'est pas démocratisé comme aujourd'hui. Mais enfin bon, l'appareil maintenant existe.
On faisait les allers-retours.
C'est CGTL qui faisait
gros,
ça.
Ou alors on laissait l'enfant
pleurer. En tout cas, l'idée du babyphone a beaucoup amusé Nagui, qui m'a confié avoir profité du dernier déménagement du bureau de la bande originale pour en installer un qui lui permet désormais, quand il s'absente, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, pour un quart d'heure, quand il s'absente de la pièce, de savoir les saloperies que les uns ou les autres balancent sur lui. Pour moi, ce procédé n'est pas nouveau, puisqu'il y a longtemps que dans ma camionnette bâchée, cuir clouté noir, garée allée des branleurs derrière l'ambassade de Russie. Vous savez où elle est, Nagui, c'est vous qui allez remettre régulièrement dans le parking. J'ai installé un babyphone lorsque je me trouve à l'avant de mon véhicule, qui fait aussi auto-école, en train de donner des cours de conduite à de jeunes apprentis routiers qui pilotent, assis sur mes genoux pour plus de convivialité et de confort, avec maniement du levier de vitesse, maîtrise du tête-à-queue, lubrification de la culasse, ouverture de la voie d'agrandissement. Voilà. Ce qui me permet, disais-je, quand je suis très occupé à l'avant, de savoir ce que les autres font à l'arrière. Voilà pourquoi l'invention du babyphone, comme celle de ce film, sont de vraies réussites, mes amis. Voilà ce que le père Albert m'a confié. Paix à son âme et excellente émission à vous deux.
Et bravo.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Pas trop mal le résumé. Oui.
Le père Albert avait compris.
Pas mal. Le point de départ, en fait, c'est vous, Mehdi Saadoun, pardon d'être impoli avec Anne-Marie Vin, mais c'est vous qui, on sent, est une espèce d'artiste, mais en même temps timide, replié sur lui, pas trop sûr de lui, un peu baladé par ses potes qui ont réussi leur life, visiblement.
Ouais, c'est ça.
donc en fait, pour lui, le seul moyen de s'exprimer, ça va être la musique. Voilà, il est encore sous l'influence de sa mère, de son père, enfin Michel Jolas, hein, et puis Marie-Christine Adam. Et puis, voilà.
Donc industriel qui attend de la retraite et qui adorerait que vous repreniez la boîte, l'usine.
Reprendre la boîte de papa pour assurer l'avenir de l'enfant. Et malheureusement, moi, je suis un passionné. Et puis, voilà, comme tous les passionnés, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais on a tendance un petit peu à être à fond dans ce qu'on fait et puis oublier l'essentiel.
Sa femme.
Ouais. Exactement. J'ai dit l'essentiel. Hein.
Sa femme et sa fille. Mais ouais.
L'essentiel. Énorme.
Voilà. Ouais, c'est le pont pour Anne.
Ça, c'est un artiste qui malheureusement ne fonctionne pas et du coup est très auto-centré. Et puis, c'est aussi l'histoire d'un homme de 40 ans qui vient de devenir papa et comme beaucoup d'hommes, laisse...
Adolescent.
Oui, c'est adolescent. Ça, une sorte d'adolescence, c'est-à-dire qu'il
n'est pas fini.
Il n'est pas totalement fini. C'est-à-dire que sa femme a pris un peu la place de maman. C'est elle qui fait tout. Et puis, vu que c'est la seule à avoir un boulot stable et à ramener l'argent, bah, du coup, c'est elle qui est devenue un petit peu la trésorière du couple. Et ça déséquilibre beaucoup les choses parce que c'est un peu elle qui l'autorise ou pas à acheter, à partir, à dîner, à, voilà.
C'est l'économie d'un couple.
Exactement.
Elle a plus le temps de rien faire non plus parce que, évidemment, c'est chronophage tout ça.
Bien sûr. Et puis, elle, comme, voilà, ça, c'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant, évidemment, c'est génial, mais c'est aussi quand même très cataclysmique. Attention, c'est très difficile à dire.
Tu choisis toi-même les mots que tu
dis.
Hein.
C'est vrai, et d'ailleurs je vais arrêter de vouloir péter plus haut que
c'est compliqué
que je
quoi. C'est compliqué.
Prends deux syllabes.
C'est pas facile.
Ouais, deux maximum trois syllabes.
C'est bon. Moche. L'arrivée d'un enfant peut être moche aussi. Donc cette femme n'en peut plus. Elle est au bord du burn-out et en plus de ça, elle aimerait être valorisée, regardée, aimée et malheureusement ce garçon n'en a que pour son piano. Et ses compos.
Alors, ce film est une sorte de huis clos parce que tout se passe dans l'appartement, même s'il y a des scènes en extérieur, même s'il y a des voitures bien garées qui vont avoir une deuxième vie, même s'il y a une scène de volée et ainsi de suite, on est quand même dans une sorte de huis clos où tout se passe dans cet appartement avec la réunion de famille. Certains sont là pour des bonnes raisons, d'autres sont là pour des mauvaises raisons, des situations de quiproquo. Comme l'a dit tout à l'heure Daniel Morin, le babyphone, cet appareil de surveillance de respiration de l'enfant ou de ses pleurs ou de ses cris, vont faire que, évidemment, comme dans tout ce genre de situation, des révélations seront faites. Et bizarrement, j'ai envie de dire au début, relativement accepté, c'est-à-dire que bon an mal an, on entend l'information, vous prenez un coup de
massue,
un coup de poing dans le plexus solaire, mais ça ne fout pas en l'air la soirée, elle se continue avec cette espèce de boulet que vous allez traîner jusqu'à ce que ça pète.
Ouais, mais en fait, au moment où
ça met du temps à péter.
Ouais, je pense que naturellement, il va pas vouloir couper le babyphone tout de suite parce que c'est un petit peu comme lorsqu'une voiture arrive. Enfin, je me suis pas fait écraser, mais Dieu merci. Mais lorsqu'une voiture arrive, je pense que le réflexe c'est de pas bouger pour savoir, enfin voilà, c'est peut-être l'instinct humain, et du coup on a envie d'entendre ce qui se passe.
Moi j'ai un autre exemple.
C'est pas mal l'exemple là.
J'ai un autre exemple, c'est quand par exemple vous êtes au téléphone, que vous dites au revoir à une personne et que l'autre ne raccroche pas.
Ouais.
Et que d'un coup on se rend compte qu'il a pas raccroché, on pourrait très bien nous raccrocher et puis se dire ben non, mais je vais écouter.
Ouais.
C'est assez bizarre.
Ou quand on vous appelle du fond de la poche, tu sais, le téléphone se déclenche dans n'importe quelle situation, dans ton sac à main, et tu dis allô, il y a personne, et puis pendant 5 minutes, tu peux écouter la vie de l'autre.
On écoute. Peut être c'est l'interdit.
Ouais, on a tous ça. Puis
c'est... 9 fois sur 10, c'est consternant, il n'y a rien à écouter. Hein.
Ouais, mais c'est enfantin aussi d'avoir envie de se toucher ce qui est interdit, quoi.
Mais le babyphone, justement, dans le film.
9 fois sur 10, mais quand il y en a une, et pardon, je vais me faire un kiff, je vais le raconter cette histoire, parce que le mec, au moins, il va se reconnaître. C'est un direct artistique que j'ai au téléphone pour préparer une émission de télé, notamment avec Johnny Hallyday. J'ai au téléphone et on discute, on dit oui, on commence par quelle chanson, on fait quoi, Johnny va accepter ci, va accepter ça, machin. Et le mec, super cool, ouais, pas de problème, ciao, je t'embrasse et tout. Et le mec ne raccroche pas. Et je reste en ligne et comme à la fin, il n'y avait pas eu de au revoir, à bientôt, ni rien, c'était ouais, on fait ça. Et j'entends un clouc. Mais comme s'il avait posé le téléphone et la voix continue. Donc je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et là, j'entends, mais quel connard ce mec, mais le...
En parlant de
moi. Et il me démonte.
Il te connaissait bien, quoi.
Et il me donne des surnoms en parlant à d'autres personnes. Et lorsque l'émission arrive, t'imagines l'ambiance, Johnny arrive avec ce bonhomme qui est... Et le mec, il vient évidemment très showbiz et il me fait la bise. Et là, je lui sors tous les surnoms qu'il m'a donnés. La tête du bonhomme qui se défait, évidemment. c'est formidable. Donc,
évidemment.
Mais tu m'en veux toujours.
Une fois sur dix, ça peut malheureusement être intéressant. Mais c'est exactement ce cas de figure. C'est-à-dire, on se dit, la vie continue quand même. Les gens disent des choses peut-être horribles ou révèlent certaines choses, mais la vie continue. C'est un peu la philosophie de votre papa dans le film joué par Michel Jonas.
Ouais, c'est ça. Soit on ferme les yeux, soit on met tout à plat. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Michel Jonas, pour le coup, joue un personnage qui va dormir. Une grosse partie du film. D'ailleurs, il s'est même endormi à un moment donné pendant le tournage.
Vraiment, c'est vrai.
Ça a provoqué
un gros fou rire. Il ronflait réellement. Il le fait vachement bien, Michel.
On s'en est rendu compte quand il a commencé à ronfler. Du coup, on a attrapé un gros fou rire en pleine.
Non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui s'aiment. Attention, c'est ça. C'est un dîner avec les beaux-parents. C'est un couple qui ne va pas très bien, mais qui s'aime.
Les meilleurs enfants.
Et les meilleurs amis qui se connaissent depuis 20 ans. Donc, évidemment, vous pensez bien qu'en 20 ans d'amitié, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Donc, là, il y a des révélations. Mais ça va permettre, ces mensonges vont permettre de régler plein de faire un gros bilan sur leur amitié de 20 ans et sur effectivement tous les déséquilibres qui ont pu s'installer pendant ces 20 ans d'amitié.
C'est un film que vous mettriez dans la famille des comédies à l'italienne.
Aucune idée.
Parce que il y a des moments évidemment de rire, il y a des moments plus psychologiques. C'est pour ça que je pensais plutôt à des films italiens où on peut voir ce qui se passe entre dans la famille avec des explosions de sentiments, avec des révélations. Enfin bon, mais ne le mettons pas dans une catégorie.
Ouais, voilà, pourquoi le mettre dans une catégorie?
C'est quoi, c'est des étiquettes.
Mais bien sûr, merci Alessia.
Non, mais après, pardon.
Vas-y.
Non, la volonté du huis clos, c'est que le public puisse se rapprocher des personnages le plus possible.
Et c'est réglé aussi.
Exactement.
Et puis vous êtes coincé, vous êtes pris comme un rat, Mehdi Sadoun, parce que finalement, votre personnage n'est quand même pas d'un grand courage.
La jubilation qu'elle prend
à dire ça.
Vous êtes coincé comme un rat, Mehdi Sadoun.
Mais le courage, qu'est-ce que le courage?
Et puis parce que vous êtes même, d'une certaine façon, vous êtes prêt à passer sur un rapport un peu compliqué avec votre épouse.
Un petit coup de canif dans le contrat.
Un petit coup de canif pour votre rêve, mais c'est aussi ce qui fait de votre personnage un homme intéressant.
Est-ce
que vous poursuivez coûte que coûte vos aspirations personnelles?
Exactement.
C'est ça, mais le courage aussi peut être exprimé du fait qu'il aille au bout de ses passions et puis qu'il continue ce qu'il aime. Après, c'est un choix. C'est vrai que pour la famille, c'est pas, je rends pas service.
Oh, mais il est doué, il est extrêmement doué.
Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin, Pascal de Molon.
Il chante bien.
Pardon? Mais on a demandé, alors je vous dis tout, on a demandé la chanson, on nous a dit non.
C'est vous qui chantez, Mehdi Sadoun.
Je vais vous le faire en
acapella.
Non, je vais vous faire Claude François plus.
On voulait la passer, on nous a dit non, mais je trouve ça dingue.
Qu'est-ce qu'il y a dit non?
Je sais pas.
C'est moi, je peux le dire. Non, mais c'est parce que je pense que le réalisateur a raison, parce que c'est une telle surprise dans ce film, ce moment, que si on le dévoile maintenant.
C'est une chanson.
Mais non, Nagui, attention.
La chanson, Nagui, c'est connu en chanson et en musique.
En plus, c'est une bonne chanson.
Mais ouais, elle est super cette chanson, mais je pense qu'il faut absolument que le spectateur la découvre, cette chanson.
Et qui chante?
C'est moi.
Non.
J'ai une voix grave.
Anne-Marie Vin est ma femme dans le film pour de vrai. Pascal de Melon est un vrai producteur.
C'est moi.
Non, mais qui chante? Vous pouvez même pas me dire qui chante?
Non, rien. Il faut des surprises. Il faut que les gens se déplacent.
Donc c'est le jour de la femme, le 8 mars, que ce film sortira.
Le jour de la femme.
Ben oui. Ça, j'y peux rien.
Ouais, c'est triste. Ben, ça me
Babyphone, Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun sont nos invités, ce jusqu'à 12h30. Et vos oreilles ont sifflé de bonheur, Leïla, quand on vous a annoncé la venue de Anne et Mehdi.
Oui. Ben oui. En plus, je vous aime beaucoup, Anne et Mehdi aussi. Je vous suis beaucoup aussi. Et quand je pense à vous,
Anne, moi je vais aimer Mehdi.
Si tu veux, mais j'aime les deux, mais on peut se partager. Quand je pense à vous, Anne, je vous revois avec frayeur et avec excitation aussi dans Chez nous de Lucas Belvaux.
En ce moment.
Et le film marche.
Ils avaient encore cambriolé chez Robert.
Qui ça, il?
J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange.
Je te signale qu'ils sont autant français que toi.
Bah ça, c'est à voir, ma grande. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps.
C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer.
Vous incarnez dans ce film Anne-Marie Vin, dans ce film qui est toujours à l'affiche de Lucas Belvaux, femme, amie d'Émilie Dequesne, qui incarne cette infirmière qui a été désignée et choisie pour devenir tête de liste de la municipale de cette petite commune du nord de la France. Mmh. Et vous êtes plutôt pro idée extrême. Vous êtes dans ce parti qui ressemble un peu au clone du Front National, on va le dire clairement.
Vous êtes pour l'ordre, quoi, pour les choses qui marchent.
Écoutez, je suis pour ce qui va se passer dans pas. Non, plaisanter, mais je ne peux pas plaisanter sur ce sujet. Non, en fait, ce que j'aime beaucoup dans le personnage de cette Nathalie, c'est qu'elle est partout autour de nous, quand même, cette femme, parce qu'elle incarne la parole qui s'est libérée. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est dans les déjeuners familiaux, dans les dîners, c'est-à-dire que maintenant, on ose dire des choses beaucoup plus facilement, et du coup, on assume beaucoup plus d'appartenir ou de vouloir appartenir à ces partis extrémistes. Donc elle incarne ça, c'est parce qu'elle incarne la frustration, la colère, la désillusion.
Là, vous parlez de la fiction ou vous parlez de la réalité quand vous dites on ose ? Non, mais quand vous dites on ose.
Ah si, bien sûr. Oui, moi, je sais qu'il y a 15 ans, c'était quelque chose qu'on n'assumait pas. En tous les cas, chez les gens que je fréquentais.
Tout le monde a toujours pensé de la même chose ?
Ah non. Pas du tout, ça a évolué.
On n'assumait pas, ça veut dire que...
Non, je pense qu'on n'assumait pas, c'est-à-dire que les gens qui votaient, qui mettaient leur bulletin dans l'urne, n'assumaient pas, souvent le cachaient.
D'accord. Oui.
Le cachet.
Il y avait des partis
ou alors il y avait vraiment
moins,
voilà, il y avait une idéologie très forte.
Mais ils étaient quand même moins nombreux à mettre ce genre de bulletin.
Là, c'est un Français sur quatre.
Là, ils sont plus nombreux, donc.
Et là, il y a quelque chose qui s'est libéré, c'est-à-dire dans n'importe quelle classe.
Ouais.
Et Émilie Decaen, à ce micro, en présence de Lucas Delvaux, nous disait que certaines répliques du film étaient très
douloureuses à dire.
Ouais.
Ouais. Et moi, j'en ai une.
Alors vous,
j'en ai plusieurs parce que elle est extrêmement virulente, Nathalie. Mais j'en ai une que m'a fait dire qui n'était pas dans le scénario et que m'a fait dire Lucas sur le plateau, qui à un moment donné, ils sont à la fin d'un meeting et il y a une manifestation contre donc ce parti et
le bloc.
Ouais, contre le bloc et je sais plus ce qu'ils disent, c'est 4 générations pour expliquer que voilà, c'est des générations d'immigrants qui sont là depuis et qui sont nés donc en France et tout. Et moi, il m'a demandé d'hurler. Nous, on est des bouffeurs de cochons.
De cochons.
Et j'ai trouvé ça d'une violence.
Et vous le faites très bien.
Et je le fais très bien.
Non, mais c'est une comédienne.
J'adore.
Mais c'est une comédienne.
Non, mais tu fais plein d'accents aussi.
Non, mais c'est une comédienne, mais là, il y a un truc.
Haineux, quoi. Il y a un truc. Non, et surtout, je trouvais ça très, très violent parce que j'étais quand même entourée de vrais faux figurants dont on ne connaît pas les idéologies.
C'est ce qu'on a dit ici avec Lucas Belvaux en se disant peut-être que dans les figurants du film, il y avait 25% de personnes.
Moi, je vous assure qu'il y en avait beaucoup j'ai eu plein de gens qui se sont retournés vers moi et qui m'ont fait un petit sourire, genre.
On est d'accord.
Et ça m'a glacé le sang parce que j'avais juste envie de dire non mais moi je le pense pas.
En tout cas, ça comme un bel hommage à la charcuterie française.
En tout cas, ce que le film permet de rappeler, c'est que il y a toujours et encore des néo-nazis et des membres extrêmement violents et des fascistes autour de ce parti qui change ou pas de nom et qui l'oublie ou non le patronyme familial, puisque on l'avait dit aussi dans cette émission. Ça reste quand même soi-disant un parti anti-système. Or, il est totalement issu du système. C'est une dynastie Le Pen, bien née, riche, richement
née aussi. Qui nous a parlé de
c'est pour ça qu'elle fait tout pour oublier le nom de famille en disant simplement c'est Marine, la vague Marine. Mais il ne faut pas oublier que c'est Le Pen.
Et si on est des mangeurs de cochons, moi j'avais pensé à un film qui vous a réunis tous les deux, c'est Les Restes du Jambon d'Anne Pétrin.
Oui,
c'était juste un c'était pour faire un petit clin d'œil parce que moi c'est un de mes films préférés. C'est un film qui me fait hurler de rire et je vous trouve tous les deux
Anne
de Pétrini, et vous êtes géniaux tous les deux dedans, donc voilà, c'est
avec
parfait.
Ramzy
mais avec Ramzy, absolument. Mais quand je pense à vous, Mehdi, je pense à un carton du moment et j'en ris encore.
Bonsoir Romain.
Et tu es encore au bureau ?
On doit avancer la réunion demain matin.
Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents ?
Yeah ! Mais où, bordel ?
Chez mes parents, on t'attend.
Cacher une infidélité ? Ou encore préserver votre jardin secret.
T'es là, bébé ?
Ouais, je suis là.
Détendez-vous, on s'occupe de tout.
Alibi.com de Philippe Lachaud, Mehdi, vous avez reconnu ? Ou dans lequel vous jouez ?
Oui. Non, c'est la bande-annonce.
Alors, il n'est pas l'amant de Joey Starr.
Non, vous jouez.
Joey, que nous recevrons la semaine prochaine, d'ailleurs.
Vous jouez Garcia, le gitan.
Ouais.
Vous en avez pas marre, Mehdi Sadoun, de jouer dans des films qui cartonnent ?
Oh, qui cartonnent ? Non, pas tous.
Plaisantez.
Non, vous revenez en arrière, ils n'ont pas tous cartonné. Oui,
enfin, dernières années, Mehdi Sadoun, quand même, vous avez participé à des gros cartons. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Oui, effectivement. Mais après, c'est l'alignement des planètes, c'est de la chance.
C'est la première fois que tu parles de ça.
Je pense qu'il y a.
Vous pourriez faire comme Anne-Marie Vin, faire des films d'auteur comme Bienvenue chez les Ch'tis.
Bien sûr, prends-en de la graine.
Avec des audiences confidentielles.
Non, je prends. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de succès pour faire un bon film, quoi.
Ouais, mais alors vous avez appartenu.
De recettes, oui.
De recettes.
Il n'y a pas vraiment de succès pour faire
un
film.
Non, paraphrasez pas parce qu'après j'ai l'air con.
Excusez-moi d'être seul à écouter ce que vous dites parce que ça continue là.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de.
J'essaie de poser ma question. Je disais simplement que vous appartenez à plusieurs bandes. Vous avez appartenu à celle des Kaira.
Absolument.
Là, pour ce film, Alibi.com, vous avez rejoint la bande de Philippe Lachaud.
Ouais.
J'ai l'impression que vous êtes un peu à l'aise partout et que vous pouvez comme ça collaborer et à la fois être libre de ne pas être limité à une bande.
Nous on a commencé avec les Kaira, on a pris beaucoup de plaisir. C'était un personnage. Moi j'aime bien faire des personnages qui sont un peu loin de moi à la base.
Abdelkrim, c'était ça.
Qui parlait un peu comme ça.
Génial.
C'était un mec qui me faisait peur quand j'étais petit et en fait voilà comme j'avais.
Ah, qui existait donc.
Ouais, exactement. Ah. Ouais, qui me prenait mon vélo, qui revenait au bout de 7 heures et puis et je me souviens de son voyage comme ça en contre-plongée avec sa tête en avant comme ça, il me faisait peur. Donc du coup c'était la seule référence que j'avais pour pouvoir incarner ce personnage-là en exemple. Puis après bon voilà, on cherche, on aime bien, j'aime bien changer de rôle constamment et puis m'amuser. Et là, c'est donc la première fois que je pars sur un registre un peu plus profond. Avec, plus
mais ça fonctionne, terminé. Ça fonctionne bien, d'où peut-être l'accessoire de lunettes. Pour, c'est important, ça, quand on est comédien, de prendre un objet ou une tenue vestimentaire ou une démarche pour rentrer dans un personnage, pour s'accaparer un rôle.
Bah oui, je pense. Après, moi, enfin, juste avant Babyphone, tous les personnages que j'ai incarnés, c'est des personnages que je connaissais. Donc moi je sais que quand j'étais petit par exemple, j'avais un problème d'identité, j'étais très timide et je suis encore très timide aujourd'hui et je voulais être la personne qui avait en face de moi. Donc quand j'avais un asiatique parce que j'ai grandi dans le quartier asiatique, ben je parlais avec l'accent asiatique.
Vous voulez être l'autre.
Quand j'avais un antillais en face de moi, je parlais avec son accent antillais, quand j'avais voilà, c'était comme
aucune personnalité.
Aucune personnalité.
Non mais en revanche, c'est un vrai talent chez Mehdi parce qu'il croque les gens très très vite.
Ça m'a beaucoup aidé et du coup, c'est la première fois que je me retrouve dans un personnage qui me ressemble un peu, c'est-à-dire qu'Olivier Casas quand il m'a proposé ce film-là, il m'a dit écoute, tu vas arrêter avec tout ça. Il y a autre chose chez toi. Et j'aimerais bien l'exploiter. Donc je dis, vas-y, fais ce que tu veux.
Vous aussi, Anne-Marie Vin, vous appuyez sur des accessoires, sur des observations de la vie de tous les jours pour aller chercher un rôle?
Ah oui, moi, il faut que j'essaie de savoir si je l'ai déjà rencontré.
Donc pareil,
ouais.
Mais comme
Mehdi. Ouais. Alors j'essaie de. Et puis après, on va chercher des choses en nous aussi, quand même. Mais oui, effectivement.
Et cette femme-là, vous l'avez rencontrée plein de fois, je pense.
Ah oui. Ah oui. Et puis j'ai été parfois dans les états dans lesquels elle est, là, au moment du film, bien sûr.
Olivier Casas signe donc ce film qui s'appelle Babyphone. Nos invités jusqu'à 12h30, Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun. Mais voici d'abord l'humeur d'Alison Wheeler.
Bonjour à tous, c'est Marie Cystite de la Manif pour tous.
Aïe.
Elle aime péter, oui, mais elle aime fêter aussi, car nous célébrons aujourd'hui le fabuleux carême. Alors attention aux faux amis, nous célébrons le carême et non pas le carim. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour commémorer avec vous les 40 jours de jeûne du Jésus-Christ, notre sauveur dans le désert. Alors attention encore aux faux amis, je parle du jeûne avec un accent circonflexe, hein, à ne pas confondre avec le jeune qui a un accent de banlieue et qui aime caillasser notre République. Un jeûne, un vrai, c'est 40 jours sans manger. À ne pas confondre également avec 40 jours de jeûne qui est un roman de Frédéric Mitterrand. En effet, afin d'inculquer la notion de sacrifice, la tradition catholique invite ses croyants à marquer le carême en se privant d'une chose qu'ils aiment, Nagui. Oui. Pour ma part, hein, je me prive de Jésus pendant quelques minutes en prenant la parole sur votre radio de Bobo Sataniste. Donc c'est donc naturellement que je souhaite éclaircir un point. Oui, François Fillon est innocent.
Ah bon ?
Et je suis scandalisée que personne ne dise la vérité. Mais vous faites erreur à son sujet à la fin des erreurs que je veux pointer du doigt, mais c'est pas vrai. Ça suffit, hein. Il a fait son mea culpa. Arrêtez, on a tous le droit à l'erreur, hein. Moi, je pars du principe qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Par exemple, quand mon mari m'a trompée 7 fois, je l'ai à demi pardonnée chaque fois. Sauf pour cette petite salope de l'aumônerie qui se reconnaîtra. Si on compte bien, ça fait 3,5 pardons au total. Donc arrêtez maintenant ! Car oui, je suis très inquiète. Hein. Comme vous le savez, des juges ont ordonné une mise en examen de M. Fillon alors qu'il est déjà visé par une enquête préliminaire. Tout d'abord, nous savons tous que les préliminaires sont une perte de temps. Mais c'est surtout un véritable assassinat politique, hein, que vous faites, messieurs les juges. Mais qui êtes-vous pour juger à la fin ? C'est pas vrai ? Une famille politique, ça n'est pas un papa et un juge d'instruction ? Vous êtes en train de détruire une famille politique comme cette petite pute de l'aumônerie. J'espère qu'elle m'écoute. Mais on ne doit pas tout montrer de la vie des gens, enfin. Et depuis, de quoi on se mêle? Notre société est pervertie par la politique et le sexe, hein. Depuis, surtout qu'on les filme. Et je dis ça par expérience, hein, car j'ai moi-même essayé de participer avec mon mari à une VHS de sexe, hein. En voici pour preuve un excès audio, un extra audio. Écoutez ça. Vous voyez, ça vous met mal à l'aise, hein.
Oui, oui, voilà. C'est gênant. C'est
et bien, je ressens le même dégoût face à ce pugilat qui prend une ampleur démesurée. Donc la justice peut bien penser ce qu'elle veut, il n'y a que deux possibilités. Soit François Fillon est innocent, et dans ce cas, il doit être notre prochain président. Soit François Fillon est président, et dans ce cas-là, il sera innocent. Nick les rageux, et donc la reine.
Bravo, bravo,
bravo. Allez. Comment s'appelle Nagui. La bande originale.
Oh, la voix.
Formidable.
Moi, je veux bien, la VHS, là. J'ai trouvé ça assez
Elle mange du cochon.
Et l'acronyme de la manif pour tous, LMPT. C'est comme. Ah, ouais, c'est formidable. Merci, Alison Wheeler. Dans cette bande originale, nos invités Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun viennent vous présenter Babyphone, que nous avons eu la chance de voir, ce film sortant le 8 mars prochain. Et on va évoquer quelques dates de votre vie et de votre carrière, dates que vous avez en commun, pour savoir ce que vous écoutiez autour, par exemple, de votre naissance dans les années 70, 73, pour être précis. Mehdi Sadoun, écoutez. Évidemment.
C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Massias.
Ah !
74.
Dans toute l'Amérique, oh, dans toutes les boutiques, on n'entendait plus que ce refrain-là.
Je n'ai jamais entendu ce morceau.
Personne l'a entendu celle-là.
Si, moi, tu rigoles, ouais. Forcément.
Même Mathias, il l'avait oublié celui-là.
Mais ouais, mais je lui ai rappelé en plus.
C'est là où tu vois les racines de Kenji aussi.
Ouais, exactement.
Il y a des.
Ah ouais,
Umpalele, Umpalala, évidemment.
Bien sûr.
Non, j'avais 3 ans quand je l'ai chanté celle-là, en fait.
Pour le rôle de Garcia le Gitan.
Exactement.
Votre papa était ingénieur en travaux publics. Votre maman, d'origine italienne, vous élevait. Vous étiez très, très proche de maman, c'était maman italienne qui.
Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah il y avait deux caractères complètement différents. Mon père kabyle, très taciturne, et puis qui a pas de tendance à beaucoup s'exprimer. Voilà, qui est plutôt replié sur lui-même.
Réservé sur les je t'aime.
Exactement. Et puis la mère justement qui pète des câbles à la maison parce que elle ne dit pas ce qu'il faut, ce qu'elle veut entendre. Et puis voilà. Puis on est au milieu de tout ça.
Vous avez été, comme vous l'avez rappelé, dans une école où il y avait une majorité d'enfants asiatiques. 80% des élèves de l'école étaient d'origine asiatique. Ne parlaient pas bien la langue française.
Ouais, voire pas du tout. Ouais, c'était la première immigration indo-chinoise donc qui est venue s'installer dans le 13e et dans mon école particulièrement, avenue d'Ivry, qui existe toujours. Et donc en CP, par exemple, quand on avait 5-6 ans, ils avaient déjà 10 ans. Et ils représentaient 80% de la classe. Et puis l'institutrice demandait souvent notre aide pour pouvoir leur expliquer un petit peu ce qu'elle demandait. Parce qu'elle ne pouvait pas répéter et puis se mettre derrière chaque élève. Donc elle demandait à nous, reste du monde, entre guillemets, de leur expliquer. Mais ce qui était très compliqué. Donc voilà,
j'avais ma méthode. On sent l'amour de la langue française quand même, y compris dans votre manière de vous exprimer. C'est venu d'un prof en particulier, d'une lecture, d'un livre, d'un film. D'où est venu ce plaisir de la langue et...
Le plaisir de l'amour de la France, oui, de la langue française. Non, j'ai pas suffisamment lu pour pouvoir être littéraire. J'ai pas
un champ lexical très. Il y a eu un moment où vous avez.
Pour parler justement de ces Asiatiques qui étaient dans ma classe qui parlaient pas français, ça s'est fait au fait instinctivement quand la prof nous a dit, enfin la maîtresse à l'époque, expliquez à vos petits camarades. Moi, je me rendais compte que mes potes à l'époque n'arrivaient pas à se faire comprendre des Asiatiques. Et je me suis dit que tiens, comme à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, que je prenais l'accent d'un tel ou de l'autre, c'était pas du tout par moquerie mais plus par empathie, et j'en avais déduit que pour qu'ils puissent comprendre le français, il fallait que je prenne leur accent. Enfin, j'avais essayé, puis ils comprenaient tout de suite.
D'accord.
Voilà, un exemple, par exemple.
C'est une question de musique, en fait. Il fallait
c'était une musicalité. Puis il y a le guttural aussi. C'est-à-dire, quand la prof disait prenez le cahier bleu et coupez la page. Donc, quand il y a une élève qui disait bon, la maîtresse demande de couper la page avec le couteau, en fait, le ciseau. Moi, il comprenait pas, comprend pas. Et moi, je disais, ben, tu coupes la page, ben, le ciseau, après, c'est prendre le stylo.
C'est vrai qu'il y a un.
Et voilà. Et en fait, j'ai pas pensé à ça sur le moment. J'ai vu qu'il me comprenait. Et puis,
vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça serait pris comme de la moquerie, de la xénophobie, du racisme.
Sauf si c'est fait dans un cadre.
Non, mais c'était, c'était vraiment dans un but.
Non, mais là, aujourd'hui, quelqu'un d'asiatique entend ça en disant mais pourquoi Mehdi Sadoun se moque de notre accent?
Ça peut, bien sûr. Voilà. C'est comme si vous leur dites, si vous allez par exemple aux États-Unis alors que vous avez appris 20 ans l'anglais, puis que vous allez dans le Texas, il y en a un qui fait. Il se dit merde, je comprends rien, j'ai appris l'anglais 20 ans en France, je comprends rien. Et que vous avez un Texan qui finalement prend bien l'accent français, qui vous dit You go to the Mississippi.
L'accent français,
vous le remerciez. Vous êtes content.
L'exercice est le même.
Qui fasse l'effort.
Non, je voulais simplement dire qu'on est un tout petit peu plus tendu maintenant sur les vannes des accents, les humours.
Qui veut se tendre, se tend.
On a peut-être aussi abusé pendant des années, moi je dis ça, je dis rien.
À la fin. Oui, non, il y a des limites. Voilà. Il faut encadrer tout ça. Mais la liberté, c'est pas mal aussi. Mmh. Et la vanne, ça dépend qui l'a fait. Pas forcément vis-à-vis de qui, mais qui, d'où est originaire cette vanne.
Quelle est l'intention,
ouais, exactement.
Qui décide qui fait la vanne aussi.
Vous avez enchaîné les petits boulots, mais quand vous dites que vous avez enchaîné les petits boulots, j'ai lu dans une interview que vous les aviez enchaînés jusqu'à 36 ans, c'est-à-dire jusqu'à la semaine dernière. Ouais. Donc ça veut dire quoi enchaîner les petits boulots, c'est.
Bah, enchaîner les petits boulots, c'est, voilà, c'est essayer de payer son loyer et puis bouffer, quoi. Donc c'était. On déchire l'entretien. Bah, c'est une époque où c'était quand même un peu plus simple de trouver du travail. C'était, 90. Qui a commencé à travailler tard.
Mais du boulot pas stable, de trouver des petits boulots.
Pas stable, ouais, c'est pas ça, pas stable du tout.
Donc genre quoi, distribuer les prospectus, ranger des boîtes.
Non, c'était beaucoup de téléphones, beaucoup d'open space, téléconseillers pour diverses sociétés, différents
vendre
secteurs
d'activité. De la téléphonie, c'est.
Par exemple, ouais. Et puis donc moi je trouvais ça ludique parce qu'il y avait quand même un téléphone, un micro, on pouvait changer d'accent, de voix et puis s'amuser. En plus, il y avait un téléphone qui ne fonctionnait pas à l'époque, c'était le premier lancement du téléphone internet. Donc tous ceux qui étaient accros, qui recevaient ce téléphone-là pour la première fois, ils le paramétraient en ligne, mais il n'était pas du tout réglable du tout. Ça fonctionnait pas. Donc on restait 4 heures en ligne avec des mecs qui disaient oui, alors attendez, ne raccrochez pas parce que alors mon téléphone. Et tout. On cherchait à aller en pause tout le temps pour aller boire des cafés. Donc ne quittez pas, je vais régler le problème. Puis on revenait une heure après. Puis on disait alors finalement voilà.
Le ne quittez pas, c'est-à-dire que le SAV, ne quittez pas, je vais régler le problème. Vous mettez en pause, vous allez à la machine à café.
Mais c'était ça.
Sans déconner,
c'était ça. On nous avait prévenu dès le départ que ce téléphone ne marchait pas. Il n'y avait pas de solution pour ce téléphone-là.
Incroyable. Ouais. Vous avez fait des cartons aussi dans les soirées karaoké.
Ah, j'aime bien le karaoké. J'y vais encore.
C'est vrai?
Ah ouais. Okay. Bah, j'aime bien. Ouais,
donc le prochain rendez-vous, c'est n'oubliez pas les paroles, vous êtes obligé de venir.
Avec plaisir.
Obligé. Mais ça sera pour une bonne cause. On trouvera la bonne cause.
Ça marche.
Anne-Marie Vin, vous aussi, vous êtes née dans ces années 70 et vous écoutiez.
Pas du tout. Je suis née en 87. Extrêmement mal renseignée.
Mais vous êtes belle comme tout.
89, non?
89.
Ah, voilà, moi, selon mes informations.
Non, 74. Vous êtes une fraîcheur, Anne.
Oh, merci.
Mais c'est clair. Évidemment. Vous êtes né à Senlis, dans la région, la grande région parisienne, on va dire. On est arrivé à Paris qu'à l'âge de 15 ans. Mm-hmm. Vous écoutiez du Marvin Gaye ou quelqu'un?
En fait, mon père écoutait du Marvin Gaye.
Très bien.
Donc, du coup, c'était pas mal. Plus, quand même. Ah, j'aurais pu tomber pire, j'aurais pu tomber sur Tata Yo-Yo. Il écoutait Marvin Gaye.
Ou Enrico Macias.
Ouais. Oh, c'est vrai. Non, ceci dit, ça, c'est pas mal.
Enrico.
Mais il avait bon goût.
Quel genre d'adolescente étiez-vous? Bien dans votre peau?
Non, pas du tout, ça va pas. Il y a des adolescents qui sont bien dans leur peau? Ça existe?
Certains sont bien dans la peau des autres.
Ah
même.
Bon, ah oui, c'est ça. Ah non, parce que alors, moi, pas du tout. Non, moi, j'étais une rebelle. Moi, à partir de 10 ans, je commençais à faire mes bagages. Si on m'autorisait pas à faire quelque chose, j'étais hyper frontale. Non,
vous êtes reporter de guerre à l'époque?
Oui. Et alors que je n'y connaissais strictement rien, mais c'était juste le fait d'être de guerre. Vous voyez, dans quel état j'étais à l'intérieur, ça bouillonnait.
Okay, la violence.
Okay. Ça bouillonnait, ouais. Parce que ma mère, elle me disait tout le temps, mais ok, reporter, mais pourquoi de guerre? Je disais, mais je sais pas, c'est comme ça, il n'y a pas de femme, je vois pas de femme, là. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait que.
Qu'il y en ait une à tes.
Ouais. D'accord. Enfin, j'ai pas eu ça longtemps. Hein.
Dans les années 2000, vous écoutiez Anne-Marie Vin, Justin Timberlake.
Bien sûr.
Ah ouais.
Bah oui. Mais qui n'écoutait
pas Justin?
Tu veux
faire la jeune, là?
Ça, lui, Pharrell. Enfin, que des beaux gosses, quoi.
Ouais, je veux dire, Justin Timberlake, c'est votre...
Alors, plus maintenant, mais ça l'a été.
Votre
non,
idéal.
Maintenant, il est trop lisse. En fait, non, je l'aime beaucoup, hein, mais il est un peu trop lisse, quoi. Il fait un peu... Non, là, je trouve qu'il... Oui, alors, il est mignon, mais il vieillit pas, il reste comme s'il était enfermé dans une petite bulle.
Elle a raison, il s'est stabilisé avec sa femme.
Ouais.
Il évolue plus. Ça sent l'ennui.
Ouais, je suis d'accord.
Ça sent l'ennui.
Il n'y a pas de fêlure. Non, ça m'intéresse plus. Physiquement, moi, j'aime bien les trucs un peu cassés.
J'espère qu'ils nous écoutent pas, ça va lui mettre une sacrée claque.
C'est marrant parce qu'on retrouve un peu le pitch du film de Guillaume Canet. rock'n'roll, le côté trop stable, c'est pas.
C'est vrai, c'est, bah ouais, c'est plus forcément, raison,
plus forcément le mec avec qui on a envie de coucher, et c'est justement de Guillaume Canet dont je voulais parler, puisque vous avez tourné.
Vous avez couché avec Guillaume Canet.
C'est toi qui l'as dit.
Grand bien vous fasse, mais là en l'occurrence, je sais pas si vous êtes heureuse de le dire, dites-le.
Mais non, c'est faux.
C'était pas bien.
Mais si c'est faux, c'est faux. Mais non, mais c'est faux. Vous avez dit, je croyais que vous alliez annoncer. Bon, à cette époque.
Anne, c'était un piège.
Non,
Les gens coupent.
Ils ont déjà coupé, là, les gens. Non, c'était mon idole. En fait, vous la rencontre s'est faite sur Narco, c'est ça?
Non, en fait, la rencontre s'est faite au cours Florent. Donc on se connaît depuis très très longtemps avec Guillaume, et Guillaume à cette époque déjà bouillonnait beaucoup de créativité et faisait des courts-métrages tous les 3 jours en Super 8, voilà, et on participait, enfin moi je faisais partie des gens qui participaient à tous ces trucs.
La bande à Canet, donc vous étiez dans la bande.
Un petit peu la bande à Canet, ouais c'est vrai, et parce que Guillaume ça a été l'un des premiers à vraiment ne pas vouloir seulement être acteur.
Il s'était même entraîné au stand-up dans une pizzeria.
Ouais,
ou,
au Trésor.
C'est ça?
Ils sont devenus les films du Trésor.
D'où le nom, les films du Trésor.
C'était un bar. C'était un bar, et c'était l'un des premiers, d'ailleurs avec Franck Dubosc, Arnaud Lemort, je sais plus qui y avait d'autres.
Ils payaient en pizza en fait les comédiens.
Oui, ils étaient à moitié serveurs, et puis et tout d'un coup ils se sont dit, mais tiens, on veut être acteur, est-ce qu'on ferait pas des petits stand-up? Je crois que c'était un peu les premiers à monter sur scène comme ça, en stand-up.
Un peu à l'américaine, oui. Mélissa Doune, vous dans les années 2000, vous écoutiez Dire Straits.
T'avais les cheveux longs?
Ouais.
Mais t'es pas obligé d'avoir les cheveux longs pour écouter Dire Straits.
Je sais pas, je l'imagine. T'es cheveux longs avec une roulée.
Mais non. Non, c'est le rock propre Dire Straits. C'est propre, c'est chic, c'est très anglais.
Ouais, j'ai voulu une valeur sûre. Puis en même temps, c'est vrai que c'était la période des Kaira, donc écouter Dire Straits, comme quoi, voilà, c'était juste un rôle.
Alors justement, à propos des Kaira, vous travailliez à l'époque dans la téléphonie, donc, et là, vous faites connaissance de Courtrage-Mé, où vous rencontrez Franck.
Ouais, non, Mouloud Achour en fait.
Ah d'accord, le premier.
Ouais, Mouloud Achour. En fait, c'est quelqu'un que j'ai de la téléphonie, un ami qui m'a dit arrête la musique là, je vais te présenter un pote, t'es plus taré que talentueux en musique, et m'a présenté Mouloud Achour en fait, qui m'a fait faire des petites apparitions sur Mouloud TV en 2006.
Parce que vous vouliez faire de la musique réellement comme le personnage de Babyphone.
Ouais, je sais même pas si c'était de la musique que je voulais faire quoi, j'étais avec un copain qui m'a dit viens, on va faire de la musique, donc on a commencé à écrire des paroles.
Et vous jouiez quoi vous?
Bah c'était un peu c'était du reggae, un peu voilà, c'était une énergie, vraiment, du raga et tout.
Vous n'avez pas juste essayé, vous avez vraiment fait de la musique, non. On va en parler tout à l'heure. Il y a histoire d'Eurovision, pas très loin quand même.
Ça, c'est ce qui arrive après en dossier.
Ouais, génial.
Mais en 99, il y a des trucs un peu plus engagés sur lesquels on nous a complètement stoppé en disant les mecs, vous écrivez pas assez bien.
En fait, c'était MTV, le MTV France.
Ouais, MTV France.
Là où
c'était très sympa. Ouais, on s'amusait bien.
2009, Mélissa Doune, vous écoutiez Solar.
Je revenais toujours en arrière.
C'est bien, c'est ça l'intérêt de la bande originale, justement. C'est qu'on peut écouter toutes les musiques à tout moment, mais ça parle bien d'une période. Ouais. Et là, vous avez des images, des ambiances, des potes, peut-être qui reviennent, notamment Kaira Shopping.
Et ce morceau, excusez-moi de vous couper, mais particulièrement ce morceau qui a été sur l'émission Taratata avec les Sages Poètes de la Rue en 94.
Exact,
quel mémoire. Je me retape souvent en YouTube comme ça, parce que je trouvais vraiment l'amour de Claude à l'époque qui. Je l'appelle Claude. Hein.
Claude MC.
Voilà, Claude M. Barali, qui avait invité justement toute la clique à venir s'exprimer ce jour-là, et puis on voyait qu'ils avaient tout envoyé pour exister. De Ménélique et tout ça.
La musique, ça aide aussi le jeu d'un acteur. Le rythme, le tempo, la tonalité, être juste, faux, c'est bien d'être et musicien et comédien.
Moi, j'ai pas pris de cours de théâtre du tout, et ça a été vraiment ça qui m'a aidé dans le rythme, puisqu'au départ, je faisais des petits formats courts avec mes amis Franck Gastambide et Gilles Poquet pour Kaira Shopping. Et il y avait ce rythme musical entre nous où il fallait alterner comme ça sur les punchlines. Et effectivement, moi, comme je chantais avec un ami et qu'on avait des punchlines où on alternait aussi également, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça a été vraiment le.
Il faut être dans le temps comme quand on fait du fédo, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas rater le rythme et le tempo de la vanne.
Ah oui, non, mais c'est le rythme qui fait tout, hein. En tout cas pour la comédie.
Anne-Marie Vin, vous écoutiez à l'époque Kings of Convenience. Riding on the snow, how never been here before.
Peculiarly interested. Possibly that's all.
Beau,
mais en fait, j'étais enceinte et c'est ce que je faisais écouter à mon premier enfant dans le ventre.
Pourquoi?
Parce que c'était doux, je sais pas, c'est des périodes quoi. King and the. Voilà. Bon, en revanche, je peux pas le prononcer.
C'est cataclysmique!
Non, c'est cataclysmique!
Je suis prête pour la radio ou pas?
Je sais pas, mais pour la comédie, oui.
Bon, en tout cas, je ne peux pas prononcer.
Kings
mais j'adore.
Of Convenience.
Ouais, oh, ça va. Et j'adore, j'adore. Et ah, d'ailleurs, mon fils a des réminiscences. Il a 8 ans, mais quand.
Ah ouais,
quand ouais. Il sait ce que j'écoutais quand j'étais enceinte.
Il vous en veut?
Il reste...
Oh, c'est vachement beau.
Il reste du jambon dont vous étiez enceinte quand vous avez tourné?
Non, il reste du jambon, il était déjà à l'extérieur.
D'accord. Il était déjà en liberté. C'est à l'heure de Paris ou
quoi? Le cordon élégant. Était encore là, mais il était déjà à l'extérieur. Vous dites, c'est un peu mon premier rôle.
Non, c'était la première fois que je portais un film, comme ils disent.
Du début
je déteste ça, moi. Ces trucs-là, c'est bankable, c'est on porte le film, c'est machin, ça ne m'intéresse absolument pas. Oui, voilà. Avec quelqu'un, quoi. Et avec un autre acteur.
Et vous passez par toutes les émotions aussi dans. Tous les états dans ce film.
Dans Il reste du jambon.
Ah, moi j'adore.
Oui, oui, j'adore. Non. Non, ce qui était chouette, c'est que c'est réellement leur histoire à Anne et à Ramzi. C'est comme ça que ça s'est pas fait. Comme ça, ça s'est. Oh là là.
C'est comme un couteau et ciseaux tout à l'heure.
Tu vois, il m'a drogué, j'ai l'impression.
Joli lapsus.
Il m'a drogué.
L'eau est ouverte.
C'est comme ça que ça s'est pas fait. Énorme.
Je crois qu'on peut s'arrêter là.
Il faut vraiment voir ce film.
Mais c'est super l'intronisation de chacun dans les familles. C'est super.
Avec le Roger de chaque famille.
Moi, je voudrais saluer quand même.
Ceux qui sont France Pizier en plus.
Et oui, en plus.
Ouais, absolument. Je voudrais saluer ceux qui sont au montage lorsque Anne-Marie Vin joue.
Mais non, en plus.
Parce que dans les films, elle est.
Parce que vous pourriez demander au réalisateur, je suis hyper précise.
Non, c'est vrai, très précise.
Je suis une horloge suisse. Ouais. Bah là, arrêtez de parce que je vais peut-être arrêter la carrière grâce à
vous. Sa défense, elle est très professionnelle, très consciencieuse.
C'est la merde. J'ai pas bu, je suis pas alcoolique.
C'est pas la peine.
Il y a eu. Bon.
C'est pire.
On a plus le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'on a parlé de tous les succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment, de tous les films à énorme succès dans lesquels vous avez joué. Et vous vous retrouvez de là maintenant tous les deux. C'est la première fois que vous jouez ensemble d'ailleurs.
Oui, enfin, mis à part dans Il reste du jambon.
Ouais,
on avait une scène en commun.
Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun dans Babyphone. Et ben justement, nous avons demandé à Marie-France Richepoud, merci de venir à ce micro, Marie-France.
Oh, ça vous c'est contagieux, ça tourne, regarde.
Michron.
C'est moi, j'ai compris. Moi, j'ai tout entendu.
Vous êtes docteur en psychologie, maître de conférence à l'université Paris 13, Sorbonne, Paris Cité. Vous avez signé l'analyse du discours, donner un sens au dire. Je voudrais que l'on... puisque le non-dit est en toile de fond dans ce film, comment définir un non-dit?
Alors, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir invité, puis peut-être dire quelques mots du film.
Non, vous répondez à la question tout de suite.
Non, absolument pas, je me laisse pas faire.
Désolé.
Eh bien, d'abord, j'ai beaucoup apprécié le jeu des comédiens, j'ai beaucoup apprécié la thématique du film qui pose la question essentielle du jeu social et du dévoilement des non-dits. Alors, je vais répondre évidemment à votre question. Qu'est-ce que sont les non-dits? Eh bien, les non-dits sont d'abord et avant tout des mesures de protection relationnelle. C'est-à-dire qu'on a appris depuis notre plus jeune âge qu'il était nécessaire de nous dissimuler. Parce que vivre à découvert est dangereux et pour éviter des coups, eh bien, on use de ces mesures de protection. Alors, il y a différentes formes de non-dits qui ça va depuis de l'implicite.
Vous voyez le regard qu'elle m'a fait là ou pas? Voilà,
là, j'ai tout de suite. J'adore cette
Et franchement, vous pouvez nous la prendre ou pas celui-là? Parce que du coup, il n'a pas ouvert.
Il n'a rien dit. Il était parti pour vous intercepter et bam! Continuez.
La psychosociologie use aussi de l'observation. Hein. Vous n'avez pas seulement du discours.
Vous avez raison.
Attention aux vannes, là. On va s'en prendre.
Et là, à carreau, quoi.
Alors, je disais donc qu'il y avait différentes formes de non-dits. Depuis ce que l'on appelle un implicite, c'est-à-dire une manière que l'on a de s'exprimer de manière voilée, de dire les choses sans les dire expressément pour éviter les répercussions que cela pourrait avoir.
D'autres... C'est là ce que je voulais dire. C'est que il y a le non-dit, il y a ce que l'on n'ose pas dire, il y a ce qu'il ne faut pas dire, et il y a ce que l'on ne sait pas.
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, si vous voulez. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire, parce qu'on est par exemple débordé par une émotion et qu'on ne trouve pas les mots pour le dire.
Voilà.
Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'elles ne sont pas conscientisées. Et puis il y a évidemment des choses qu'on ne veut pas dire parce qu'elles présentent subjectivement ou objectivement, c'est-à-dire à tort ou à raison, un danger pour la relation.
Alors, le distinguo que certains font entre le mensonge et le non-dit, c'est-à-dire je...
Ce sont des formes différentes de dissimulation. Le non-dit, ça peut aller jusqu'au mutisme, jusqu'au secret, et même jusqu'à l'inhibition, comme je l'explique sur mon ouvrage sur l'inhibition.
Est-ce qu'il a du bon, le non-dit ? Est-ce que c'est une manière de protéger finalement notre vie sociale ? C'est une forme d'être diplomate et de ne pas être forcément frontal avec tout le monde, voire désagréable.
Oui, absolument. On ne peut pas, et nous le savons bien, tout dire, parce que vivre à découvert est extrêmement dangereux. Donc on met en place des masques de dissimulation. Dire est toujours une prise de risque. Par exemple, en ce moment, je prends le risque d'être à minima mal comprise, mal entendue en un seul et en deux mots, mal entendue, et puis à maxima que mes propos soient interprétés de manière abusive. Donc, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle...
Mais alors, si on prend un risque en parlant, vous allez dire qu'il ne faut plus jamais parler ou
Absolument pas. D'ailleurs, bah oui.
Vous pouvez parler moins, Nagui.
Je vous dirais même que même lorsqu'on ne parle pas, on fait l'objet d'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter la pensée de l'autre. De toute façon, dire est toujours dangereux parce que, tout simplement, le dire est une traduction de la pensée qui elle-même est une traduction de l'émotion. Et chacun sait que quand il y a une double traduction, il y a des risques d'approximation.
Ouais, ou de perte de sens.
Même de perte de sens. Alors,
mais à l'inverse, trouver les bons mots, parce que c'est ce que donner du sens au dire, c'est l'analyse du discours vous publiez chez Henrik Edition. Il faut au contraire, enfin, j'ai toujours... cru l'inverse, qu'il fallait formuler le plus possible, alors peut-être pas en inondant de mots, mais qu'il fallait dire les choses.
Oui, voyez-vous, le film pose bien la problématique du dévoilement des non-dits. C'est-à-dire que lorsque...
Des secrets de famille, là on est dans le secret.
Pas seulement. C'est-à-dire que lorsqu'un non-dit est reconnu, si vous voulez, nous sommes dans l'obligation, pour prendre le vocabulaire du joueur, d'abattre nos cartes, et même, je dirais, de redistribuer une nouvelle donne. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va devoir appliquer une nouvelle stratégie, on va devoir changer, et tout le monde n'en est pas capable, et tout le monde n'en a pas envie non plus.
Les non-dits qu'il y a dans le film, en l'occurrence, notamment dans les rapports d'amitié, dans ses amis d'enfance, de jalousie, de regard des uns sur les autres, ça fait partie des non-dits qui ont couvé pendant 20-30 ans.
Ouais, c'est ça. Bah, je pense que les non-dits. Enfin, après, je vais pas partir sur.
Si, vas-y.
Mais ouais, bon, je me lance. Non, j'ai l'impression que les non-dits, voilà, sont là pour préserver quand même un peu la famille, puisque c'est les mensonges naturels qui arrivent entre amis, dans la famille, avec le temps, qui se cumulent. Et à un moment donné, bon, ils vont exploser, mais ça passe ou ça casse, quoi.
Et puis c'est salutaire. Parfois, c'est salutaire. Exploser et de dire justement.
Ah, de tout faire exploser et de dire. Parce qu'il y a aussi des non-dits d'amour dans le rapport entre les parents.
Il y a des distinctions, c'est-à-dire ne pas dire t'as une sale tronche ce matin, bon, on peut s'en passer. Maintenant, dire réellement quelque chose qui nous a fait du mal mutuellement, je pense que ça
peut clarifier une situation.
Ça peut clarifier le rapport.
Le non-dit n'est pas forcément négatif ou péjoratif. Il y a aussi le non-dit du je t'aime entre un père et son fils.
Ça dépend toujours de ce qu'on dit et à qui dit. Très peu de gens sont en mesure de supporter les représentations d'eux-mêmes qu'on leur impose parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas.
Vous n'êtes pas en train de lire un papier.
Oui, parce que je crains, comme me l'ont dit justement mes enfants, ça fait partie du non-dit. Il y a d'ailleurs un non-dit qui plane, je dirais, sur mes propos. C'est ma trouille de parler en direct à l'antenne.
Merci.
Et bien sûr, et vous avez là un super exemple du bienfait de l'expression même d'un non-dit. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont exprimées, on ne peut plus nous en faire le reproche.
Et puis on est soulagé surtout.
Et puis on est aussi soulagé effectivement.
Voilà. On vous a dit que ça allait être compliqué de parler dans cette émission. En plus, on vous a prévenu.
Oui, absolument. Surtout à votre égard.
Mais oui, je sais. Mais je sais, c'est pour ça. J'ai été repérée.
Elle est extrêmement drôle parce que quand je l'ai rencontrée juste avant l'émission, elle a sursauté, mais elle a décollé d'un mètre du sol. Elle fait, vous me faites peur.
C'est Nagui, c'est un peu tout le monde.
Oui, oui, je sais, mais
je pense ne pas être la seule, effectivement.
Contrairement à toi, elle est légère et elle peut se décoller d'un mètre du sol.
J'aurais vu faire le lac des cygnes, mon petit.
Il y a le non-dit, il y a celui qui ne dit pas et il y a celui qui est en face qui aimerait entendre.
Ne pas recevoir.
Oui, ou qui demande, en tout cas, l'information. On peut avoir.
Oui.
Le...
Alors, si vous voulez, effectivement, il y a, on pressent quelque peu les non-dits de l'autre, hein, parce qu'il y a une sorte de maillon manquant dans le discours, et puis aussi par l'observation, on ressent, on pressent que quelque chose n'a pas été exprimé. Mmh. Alors, on peut conduire l'autre à se révéler à nos risques et périls, si je puis dire, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se révéler. Certaines expressions sont voilées. Et parfois, cela génère des ambiguïtés, des quiproquos. Par exemple, on peut exprimer un implicite et que l'autre nous réponde également par un implicite. C'est le fameux « qu'est-ce que tu fais ce soir ?» auquel l'autre répond « je ne sais pas, et toi ?» On n'avance pas trop dans une telle, dans une telle interaction.
Et c'est ça qui est passionnant.
Et ça arrive souvent, absolument.
C'est ça qui est passionnant dans votre livre, l'analyse de discours, donner du sens au dire, surtout avec la quantité de discours qui nous inondent et les médias
surtout en ce moment, les discours politiques se font très présents.
Vous devez vous régaler finalement à décrypter ce que vous appelez les phrases en suspens, les paradoxes.
Absolument, les traits d'humour, comme ici même. Oui.
Les formules employées, les exercices de linguistique presque, parce qu'on sait bien que
c'est à la frontière discours de l'analyse et de la linguistique.
Mais oui, parce que ces discours politiques ne sont pas écrits que par une seule main, ils sont lus,
absolument,
corrigés, recorrigés. Il y a peut-être même des avocats qui les ont lus, des communicants qui l'ont fait aussi.
Tout à fait.
Est-ce que le discours a encore une valeur aujourd'hui dans sa sincérité ?
Vous posez là une question lourde de sens.
C'est
une excellente question. Effectivement, le discours est beaucoup plus composé que spontané, et c'est peut-être une perte de valeur. Vous avez raison. Néanmoins, vous savez, les dangers sont tels, notamment dans les discours politiques où l'enjeu, tout le monde le reconnaît, est conséquent. Et dans ce cas, si vous voulez, eh bien on se voile. Et s'il en est de même dans les cercles familiaux et dans les cercles amicaux où l'investissement affectif est beaucoup plus prégnant, on va utiliser beaucoup plus de non-dits parce que l'on redoute la rupture du lien affectif.
Mmh. Un outil donc utile et pratique, hein, pour ceux qui communiquent, ceux qui ont besoin de savoir comment communiquer et trouver, donner du sens au dire, l'analyse de discours, donner du sens donc au dire. C'est aux éditions Henric. Marie-France Grischpoun était notre invitée, docteur en psychologie. Merci
Marie-France. Je vous remercie encore.
Ça s'est bien passé.
Merci Marie-France.
Bravo.
Daniel, on voit qu'en amour comme en amitié, le pire ennemi, ce sont les non-dits. On vient d'en parler. Il faut se parler, il faut oser se dire les choses.
Oui, ce que c'est bon, bordel. Il est tout petit, il a les cheveux gris. Avec lui, chaque jour est une leçon de vie. Youpi, c'est Nagui. Même si aujourd'hui, la leçon, c'est moi qui vous voulais la filer, bordel, à queue. Mais non, monsieur Guy, les non-dits ne doivent pas être dits comme le nom l'indique. Admirez au passage mon art de jouer avec la langue. Ouais. Je ne parle pas de mon talent qui consiste à pouvoir lécher un timbre tout en sifflant la Marseillaise. Non, le vrai moteur de la vie, c'est la rancœur, l'aigreur, la haine sourde. Je vous l'ai fait plusieurs fois. La semaine dernière, je dînais avec ma belle famille, ma famille, mes voisins. C'était génial. L'ambiance était détestable. Tout le monde se regardait en chien de faïence. Le climat était lourd, plombé. Putain, c'était bon. C'était plein de non-dits hyper violents. Le non-dit, c'est formidable. Non, parce que j'aurais pu dire à la voisine que c'était ma mère, la responsable de la disparition de son caniche. Oui, maman nous avait fait un délicieux rôti mystère. Mais de voir la voisine toujours en deuil de Kiki, fixer avec angoisse le badge de maman sur lequel on pouvait lire « I love hot dog », sans rien dire, c'était jouissif. J'aurais pu dire à mon beau-papa que l'été dernier, ce n'était pas la fille de la voisine qui l'avait rejoint dans l'obscurité estivale de la chambre pour lui prodiguer des caresses aussi insensées qu'interdites. Mais non, son frère Jean-Claude. J'ai préféré regarder mon beau-père suer à grosses gouttes en voyant Jean-Claude manger sa banane sans jamais croquer dedans.
Le non-dit te fait douter, te rend fou.
Mais ce qui m'inquiète, c'est les idées. Oui, vous les cherchez. C'est ça qui est.
Mais vous me les soufflez avec tellement d'à-propos.
C'est vécu.
Ça te fait gamberger, presque avouer des choses que tu n'as même pas faites ni osé penser. Si jamais j'avais dit tout ça, ça aurait gueulé un bon coup et basta. Mais pas de sentiment de gêne ni de regard anxieux, j'aurais pu dire Brigitte, ton chien n'a pas disparu, c'est maman qui l'a fait cuire. Bernard, calme-toi. Arrête de regarder Cynthia comme un vieux pédophile. C'est pas elle qui t'a fait un truc sale l'été dernier pendant que tu faisais la sieste. C'est Jean-Claude. Oui, Brigitte, ton fils est un satyre, ta fille a une tête de pute. C'est comme ça. Pas la peine de gueuler. Et j'ai pas de leçon à recevoir d'une femme qui a repris trois fois du ragoût de caniche. Qui prendra un café? Personne. Bon, monsieur Guy, laissez prendre la situation. C'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, vous avez fait ce que vous pouviez, monsieur Guy, mais malheureusement, c'était encore
n'importe quoi. Merci,
sur France Inter.
Babyphone, le film d'Olivier Cazaz, sortira mercredi prochain. Ça sera le 8 mars. Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun sont nos invités jusqu'à midi et demi sur Inter. C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Moutani.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et Charles Guzac-Belcadier. Et nos invités sont Anne-Marie Vin et Mehdi Sadoun.
Merci
infiniment.
Bonjour.
Pourquoi tu me fais l'anglais pour l'américain et pas moi? Anne-Marie Vin.
Marie
Parce que Alison Wheeler, ça sonne mieux avec Alison Wheeler.
Je trouve pas.
Alors que Anne.
Marie Vin. Pas du tout.
Moi aussi, je revendique la même chose.
Voilà.
Alors que Anne-Marie Vin. Combien de personnes. Est-ce que ça vous arrive souvent?
Vu le film.
Non. Il n'est pas encore sorti. Donc
il n'est pas sorti, il sort le 8 mars.
Le 8 mars. Bah, les avant-premières, on peut, ça peut être une
question. Voilà. Voilà. Combien de personnes vous appellent Anne-Marie?
Oh, voilà, on en a plein. Et Madame ça, c'est bah, Madame Vin. Anne-Marie! Anne-Marie! Plein de fois sur les tapis rouges. Anne-Marie!
Ah, les photographes?
Bien sûr. Ouais, ils le font exprès, je crois, pour m'humilier.
Donc c'est bien Anne, virgule. Marie Vin. Voilà. Ce film, donc, Babyphone, sort le 8 mars. Tout est chamboulé dans une vie à cause de cet appareil de surveillance, ce talkie-walkie, où des non-dits, des secrets vont être révélés dans la confidence, y compris sans dire lesquels, y compris d'ailleurs sur des propositions d'actes sexuels dans un couple, puisque c'est. Parce que...
je sais pas si c'est le bon terme.
Non.
Ah bah, des conseils
sexuels.
C'est un conseil dans l'acte sexuel.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
Des conseils, on va voir. C'est parti.
Qui fonctionne très bien dans la vraie vie.
Voilà. Ah bon?
Bah oui. Écoutez, Nagui, ça, si on doit tous dire, on se dit tout.
Ah bah,
c'est quoi le conseil? Moi, je
veux voir le film.
Faut voir le film
pour le comprendre. Et c'est vrai que tout ce qui semblait être en équilibre, mais un peu comme un château de cartes, va s'écrouler, mais peut-être s'écrouler pour donner quelque chose de beaucoup mieux à la fin. Mais les choses seront dites entre les amis d'enfance qui sont ensemble depuis 20-30 ans, depuis leur vie entière, que ce soit les parents qui sont là, parents ou grands-parents, joués par Marie-Christine Adam et Michel Jonas. Même il va y avoir des outings et des révélations entre eux sur les coups de canif au contrat de mariage qu'il y a pu y avoir dans leur vie. Barbara Schulz est juste en pétasse artiste musique qui déteste tout le monde. Magnifique.
Elle vous rappelle des personnes?
Elle me rappelle beaucoup de personnes. Et c'est tellement pas elle qui est juste une fille adorable dans la vie. Mais elle a un rôle clé aussi dans ce film, puisque vous allez chercher, vous, Mehdi, musicien, soit musicien frustré, soit musicien dans le doute.
Bah, c'est
en tout
un peu
cas,
ça. Hein.
Voilà, mais qui ne sait pas trop s'il a sa place ou pas dans le monde de la musique. Vous allez essayer de placer une musique auprès de cet artiste. Ouais. Et Anne-Marie Vin, qui est votre épouse, qui vient de mettre au monde une petite fille, en a marre de tout ce qu'elle a à faire et se dit, il faut maintenant que tu prennes ta vie en main, je ne peux pas être la nounou du
je
bébé.
Peux pas être ta femme, ta mère, ta psy, la trésorière du couple, elle n'en peut plus.
C'est une sorte de huis clos qui se passe dans un appartement. Est-ce que le film a été tourné chronologiquement?
Pas vraiment. En fait, c'est un film quand même, c'est un premier long métrage. Olivier Cazaz, le réalisateur, s'est battu pendant de très nombreuses années pour pouvoir le faire. Donc, on l'a fait avec une économie moindre, ce qui fait qu'on était effectivement la tournée à Bruxelles.
On n'a pas été payé.
On n'a pas été payé. On peut le dire, on
vous
a été payé en
grammaire. Vous êtes dans les studios d'ICP, c'est
ça. Non, j'ai vu le
non,
film.
Non, c'était un vrai appartement.
Oui, mais les studios mais de musique, c'est pas.
Ah, ça, je sais.
Non,
pas,
c'était
ça,
dans un appartement à Bruxelles, voilà, qui était.
Mais on n'a pas tourné réellement chronologiquement parce que c'était pas. On n'avait pas cette. Comment dire, cette jouissance-là.
un petit.
Il est bien ce moment ou pas
mieux, enfin, comme il n'y avait pas là, beaucoup de changements de décor, si on a eu. Enfin, on était quand même. Mehdi, ouais. On a suivi un petit peu le. On a eu la chance d'être un peu sur le.
Oui, parce que les personnages évoluent, donc c'est pas facile.
C'est très dur à tourner.
De se retrouver, de tourner de la scène finale si on n'a pas vécu tous les étapes par lesquelles on passe au début, j'imagine. Enfin, au-delà. Je sais que c'est votre métier.
C'était une des dernières scènes du film, effectivement.
Ouais, c'était le dernier. Il y a un petit peu d'extérieur qu'on retrouve en début du film, mais pendant tout le film, on était quand même un petit peu de manière chronologique, puisque ce qui fait que le film est tourné dans le désordre, c'est le changement de décor. Or là, on était vraiment dans un appartement, et puis ça nous a aidé à rester focus un peu sur nos émotions.
Et le chirurgien de service, bien coincé finalement par les non-dits, les secrets révélés, il ne sait pas trop de ce qu'il doit faire, parce que tout ça, c'est rempli de quiproquos, de moments de gêne jouissifs pour nous, spectateurs, parce qu'évidemment, on se plonge, on se met à la place des uns et des autres en disant mais qui va dire la vérité, à quel moment ça va sortir, comment, si la vérité sort, elle sera reçue.
Ce qui est génial, c'est que le spectateur est toujours en avance sur ce qui se passe dans ce dîner. Donc il est vraiment, il est très privilégié pour ça.
Non, mais vous avez raison. Je souligne le talent de Lannick Gautry qui, au-delà de son physique de beau gosse, joue le mec totalement gêné, embarrassé.
Mais il est malade.
Limite un peu salaud. Ouais, il est malade. Dans l'histoire.
Il est malade. C'est très drôle.
Obsédé, on va dire.
Ça va être encore un bon alibi pour pas mal de mecs.
C'est au cinéma, c'est le 8 mars et c'est Babyphone avec Anne-Marie Von.
Oui, c'est mieux comme ça.
Baby Vaughn, voici l'humeur de Daniel Leroy.
Yes.
Alors hier, c'était la journée mondiale du compliment. J'en ai chié.
On a raté.
Ouais, vraiment. Mon épouse, sainte femme, m'avait demandé de jouer le jeu pour une fois dans l'année, d'être aimable et de me plier à cette journée du compliment. Du coup, pas de « toujours aussi con » quand j'ai croisé le gardien de l'immeuble. Pas de « non, connasse, tu le mérites pas » à la gardienne qui ne digère toujours pas que je ne lui offre jamais d'étrennes en fin d'année. Au lieu de ça, j'ai fait des sourires à la con, à tout le monde, à tel point que certains m'ont demandé si j'étais souffrant à sourire comme ça. Bref, une journée débile à laquelle je ne participerai plus, c'est certain. Être sympa, ça me coûte trop cher au final. Au mieux, je veux bien faire comme vous, Nagui, à savoir être aimable tous les jours, ok, mais uniquement entre 11h et 12h30. Et le reste du temps, avoir des collaborateurs pour répondre aux gens qui me parlent, et pour mes interlocuteurs directs, vous imiter en commençant chacune des phrases par « quoi encore ?» et les finir par un jovial « ta gueule !» Et là, petite parenthèse, tout ce que je viens de dire est vrai, ça a été vérifié ce matin. N'est-ce pas, Nagui ?
C'est vrai.
On peut le dire.
C'est vrai, on peut le dire.
On peut le dire.
Mais c'était de la vanne.
Je sais que c'était de la vanne, mais c'était. Voilà.
C'est mal tombé parce qu'il était en train de faire son papier. Il me dit c'est exactement ce que je suis en train d'écrire. Donc la vanne a pris une autre dimension.
C'est ça. Allez, passons à la nouvelle intrigante du jour. Nouvelle intrigante parce que on ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. Et pourtant, ça n'empêche pas l'intéressé d'éblouir tout le monde. Cette nouvelle, c'est la publication aujourd'hui du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi tu sors un programme, Manu ? Pourquoi ? Jusque-là, tu cartonnes en promettant tout sans expliquer rien. Prends pas de risque ! Continue, mec ! Ça faisait des merveilles ! Avec moi, ce sera la France en marche, ce sera une France meilleure. Oui, mais c'est quoi votre programme, monsieur Macron ? Non, mais mon programme, c'est la vie. Mon programme, c'est l'espoir. Mon programme, c'est la France. Non, mais concrètement, c'est quoi le programme détaillé du mouvement En Marche ? Concrètement, c'est une France fière de vivre ensemble. C'est une France apaisée. Une France qui croit à nouveau. Oui, mais merde, vous avez bien un programme économique, un programme sécurité, un programme éducation nationale. Mais oui. Mais quoi ? Oh, c'est le mouvement, enfin. En marche ? Mais oui. Oui, c'est ça, mon programme. Mon programme, c'est en marche tout le monde. Et marcher chacun de votre côté, peut-être, mais dans la même direction. En marche, c'est notre slogan. Du coup, notre programme, c'est la randonnée. Oui, la randonnée d'un peuple qui, sous le soleil, sous le vent, dans l'allégresse, dans la tourmente, marchera d'un pas uni, mais pas cadencé pour autant. Comme à nouveau réuni dans un projet unique, peut-être, mais magnifique sûrement. Le bonheur de se retrouver.
Oui.
Son Christophe, il est où le bonheur ? Mais il est là, le bonheur, il est dans la randonnée républicaine. Il est dans En Marche. C'est quand même le meilleur des programmes, non, les amis ? Pourquoi s'emmerder à faire des promesses futures intenables et hors de prix, alors qu'on peut vendre du rêve immédiat et gratos ? Vas-y, Emmanuel, fonce vers la victoire. Je vous dis à tous, à demain, quand Nagui m'aura regardé.
Mais je te regarde, c'est un intérêt.
C'est
tellement
merci, Nagui.
sur France Inter.
Il y a un énorme non-dit autour du truc sexuel depuis tout à l'heure. Je voudrais libérer la parole.
Tu veux libérer la parole?
Ouais, non, je voudrais vous expliquer.
Mais je pense qu'elle. C'est dans le film.
Ouais, mais. Oui, c'est un truc. Tu peux, Alison.
On fait une métaphore alimentaire.
Et il est surtout 12h15.
Et alors, les gens mangent, ils mangent des olives, des noisettes. Ils savent très bien.
Ah, l'olive, bon indice pour l'apéro et pour.
Okay, j'ai lâché le morceau, on m'a demandé, j'ai dit.
Ah, t'appelles ça le morceau,
voilà. Mais j'ai lâché. Il faut dire j'ai lâché.
Mais j'ai lâché.
Ok, j'ai mal entendu. Nous avons Anne-Marie Vin, qui est actuellement à l'affiche de chez nous, de Lucas Bellevaux.
Il faut absolument aller voir.
Hein. Red Dingue de Danny Boone. Vous serez le 15 mars dans l'embarras du choix d'Éric Lavenne avec Alexandra Lamy et Sabrina Wazani. Et d'ailleurs, ils viendront le 14 mars dans cette émission nous présenter ce film.
Vous avez dit il. C'est-à-dire, ça veut dire qu'avant, c'était des hommes?
Non, ils sont plusieurs.
Ah.
Il au pluriel.
Sabrina Wazani, Alexandra Lamy.
Ouloulou.
Non, je crois que c'est Éric Lavenne et Alexandra, il me semble, qui viennent.
Ouais, d'accord. C'est ça.
Ah non, vous avez raison, c'est elle, alors c'est les deux filles. Voilà. Pardon, pardon. Je croyais qu'Éric venait, mais c'est vrai que j'avais donné des consignes pour qu'il ne revienne plus jamais dans cette émission. Non, mais il y a des limites à la décence.
Comme je comprends.
Il y a des limites à la décence. Vous n'arrêtez pas, vous débordez, vous explosez dans votre emploi du temps, j'imagine, non?
Mais non, enfin, c'est juste que c'est le calendrier qui a fait ça, parce que j'ai pas mal tourné. Ceci dit, c'était vraiment des propositions que je pouvais pas refuser, parce que Lucas Bellevaux, Olivier Cazas et Éric Lavenne, c'est des rôles complètement complètement. Oh là là, j'ai encore inventé un mot.
Allez-y.
Diversifié.
Oui, c'est diversifié.
Diversification.
Ah voilà, différent. Pourquoi je vais me compliquer la vie?
Parce que vous avez plus que 120 mots. Avec 120 mots, on trouve toujours les mêmes et c'est facile.
Est-ce que... Bah, Guy, il a fait une carrière avec 50 mots. Millionnaire, le gars. J'ai des cheveux en bronze.
Avec 120 mots, j'étais mytho, tu veux dire.
Un peu.
Est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que là, on parle de films qui sont sortis.
Là, c'est fini pour 10 ans, là, maintenant.
T'as tout donné.
C'est le truc.
C'est le problème de ce métier. Quant à vous, Mehdi, vous tournez avec, à moins que ça soit fait, Made in China.
C'est dans 2 mois. Ouais, ouais.
Vous allez le tourner.
Ouais, ouais.
D'accord. C'est une comédie sociale sur.
C'est une sur les Asiatiques, voilà, sur les communautés asiatiques. En l'occurrence, ça sera tourné en plus une partie dans le 13e, donc j'aurai pas de personne pour. Oula, ça fait deux fois que je renverse un truc. Ouais, mais ça va traiter un petit
ça
peu du.
Ça m'étonne que vous soyez pas encore électrocuté avec tout ce que vous renversez comme liquide sur les ordinateurs, sur les machines dans le studio de radio.
Ouais, ça va traiter donc de la communauté asiatique au sein d'une communauté occidentale, et puis il y aura une partie comédie aussi.
D'accord. Et puis la comédie, évidemment, le carton du moment, alibi.com, dans lequel vous êtes dirigé.
Mais
et
ça
avec
marche comment là,
Philippe? C'est un carton.
Ouais.
Carton plein, et tant mieux. Comme Demain tout commence de Hugo Gélin aussi, qui est un film à 3 millions. Non, le cinéma se porte
rock
bien.
Rock'n'roll aussi marche bien.
Rock'n'roll se porte bien aussi. Ouais, donc tout va bien. Et chez nous marche bien aussi. Donc
et chez nous marche très bien.
Voilà. L'avantage du cinéma, c'est qu'on peut aller voir plusieurs films. On n'est pas obligé de voir qu'un seul film, contrairement à une émission de radio. Où, quand t'écoutes une émission de radio, tu peux pas écouter les autres.
Je note tout ça.
Et un projet musical peut-être dont on va parler maintenant dans le brouillon de culture avec Leïla Kadour.
C'est quand?
C'est maintenant.
Anne, Mehdi, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, notre brouillon de culture, et on commence justement avec cet élément musical qui a lien avec vous, Mehdi.
C'est vieux ça.
Je suis tellement contente de l'entendre, c'est lui donc.
C'est vieux ça, c'est vrai.
Oh, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ce morceau. Mais
évidemment.
C'est la fête. C'était la fête.
Comment tu t'appelais?
Alors, tu m'as déjà demandé. Hein.
Mais oui, comment tu t'appelais?
Dirty Mehdi.
Méditer.
Ouais, méditer, ouais.
Méditer.
Non, ça, c'était au moment de la fin de carrière.
Ah, non, ça, c'était naze.
C'est oh là là, méditer, ouais. C'était naze.
Non, ça avait dit méditation, tu m'as dit que c'était naze. C'était brouillé à la piste.
Méditer aussi, c'est
naze. C'était en groupe avec, en couple avec Thierry Nollet.
Exactement, qui était dans ma classe en primaire. Et qui, comme
mais
moi,
c'est vachement bien.
C'est génial. Bon, on s'est éclaté, ouais. On s'est éclaté.
Et vous êtes arrivé en demi-finale des sélections de l'Eurovision.
Avec cette chanson
C'est l'année où la France a été représentée par les Fatal Picard.
Exactement.
Voilà.
Ouais. On voulait faire une télé, on nous avait appelé. Voilà, c'était Bruno Berberes qui s'occupait à l'époque de tout ça. Puis on était potes avec lui. Il nous a dit, les mecs, vous avez 3 jours pour faire une chanson de 3 minutes et vous mettez un mot anglais dans le refrain.
Mais donc non,
c'était,
j'adore ces
pitchs. C'était le challenge.
J'adore.
Tu vois, et puis on s'est dit, vas-y.
Et je veux que ça parle d'amour et que tout le monde aime.
Ouais,
allez,
ouais,
on y
c'était
va.
Comme
s'il y avait une recette pour faire de la bonne zik.
Ça, c'était la recette, en tout cas, pour participer à cette émission-là qui prenait 10 candidats et puis on a fait une télé. Ma mère était contente, mon père était content, voilà.
Et Méditer est un groupe qui existe encore?
Non, mais je suis toujours en contact.
C'est
et
pas possible.
On aimerait bien s'amuser.
Qu'est-ce que c'est que ces questions?
Attends, c'est quoi? Non.
À propos de télé,
Anne est d'une bienveillance absolue, elle balance direct.
Midi
a révélé une casserole quand on s'est rencontrés ce matin. Il a été candidat dans les années 90 à Que le meilleur gagne. Il était quand même.
Ouais.
C'est pas vrai.
Il était dans le public, il jouait avec mes vestes de couleur. C'est pour te dire qu'il
avait. Et c'est mon ex qu'il avait, que t'avais interrogé.
Mais parce que c'est quelqu'un qui m'intéressait.
C'est tombé sur elle.
Toujours dans la chanson, mais cette fois-ci côté imitation, ça vous fait un autre point commun avec Nagui, hélas. Là, c'est Daniel Guichard. Là, c'est Daniel Guichard. On a trouvé ça sur Internet.
76.
Voilà. Et vous en avez d'autres, apparemment, des imitations.
Attends, ça, c'était le vrai Daniel Guichard ou c'était Mehdi?
Non, c'est Mehdi.
Oh, t'es sympa, Nagui.
Mais
c'est
bon,
extrêmement
hein.
juste.
Il est très bon.
Mais c'est juste, surtout.
Oui, un vrai crâne
voix. Imitation, vraiment.
Non, mais déjà, il chante juste.
Et vous en avez d'autres, des imitations?
Ouais, c'est
votre préféré.
Bah, il y a Eros Ramazzotti, il y a un petit peu de tout, quoi. Ça peut aller de, c'est vraiment, je suis même shuriken d'Ayam, ça peut aller
mais
sur,
oui,
c'est n'importe
ça,
quoi.
Ouais,
c'est
bien sûr,
c'est
un petit extrait, mais
alors de quoi, d'Eros Ramazzotti ou de shuriken d'Ayam?
Les deux.
Alors pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu son père en cyclo partir travailler juste avant le sien, un 3 quarts et BMW, la monnaie? Bon voilà.
Génial! Attends, Eros Ramazzotti, je suis curieuse quand même. Parce que Eros Ramazzotti, c'est aussi particulier.
C'est basta, c'est una bella canzone.
J'adore!
A far piover amore. Si potrebbe, potrebbe, potrebbe. Voilà.
Extra. Génial.
Extra.
Anne Marivin, vous avez des dons d'imitatrice
aussi? Non.
Ah si.
Hein? Ah bon?
On aime bien quand tu refais le Picard, le ch'ti.
Oh non.
Enfin, tu disais que c'était Picard,
toi,
mais c'était.
Oh.
Bah ouais, mais écoute, on aime bien.
Bah, vous le tenez ou le tenez pas?
Bah non, le ch'ti plus, mais Picard, bah ouais, bien sûr, un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? dis-moi si tu veux.
Fais attention.
Tu veux quoi? Parce que c'est un peu agressif.
C'est gênant.
Attention,
oui, parce que ça
négligeait
ça l'excite. Ouais.
De toute façon, l'accent Picard, il est un peu agressif. Alors que les filles sont pas du tout agressives, mais elle fait quoi? Tu veux quoi? Il y a un truc un peu comme ça.
Je
alors
veux
que...
boire un verre.
Ouais, ok.
C'est ça, c'est fini.
On poursuit justement avec vous, Anne. Un extrait de film qui, selon mes infos, vous a marqué enfant, voire légèrement traumatisé.
Si je fais ça, c'est uniquement pour me confirmer un truc que j'ai toujours su. Je veux dire que je suis un pauvre type. Ça a l'air drôle, mais...
Mais dis donc, petit bout. Tu discutes ou tu baises?
Ah, Miu Miu.
Oui.
C'est le film de Daniel Duval. Je l'adore, ce film. C'est La Dérobade, avec Miu Miu, donc Nils Arestrup. C'était en 79, et je crois que ça vous a plutôt marqué. C'est l'histoire d'une, rapidement, une petite banlieusarde de 19 ans, d'un banlieusard, qui s'ennuie, qui devient,
Un Mac. Un Mac, rue Saint-Denis, comme on l'a connu, genre, comme si j'avais 107 ans. Comme je l'ai connu, quand je suis arrivée à Paris, quoi, en 72. Non, mais ce film, d'abord, je suis fan de Miu Miu, j'adore cette femme et j'adore ce cinéma-là qu'il y avait dans les années 70. C'est incroyable comme depuis on a policé, nous en France, quelque chose, c'est insensé. C'est-à-dire qu'ils se disaient des choses et on montrait. En plus, je ne pense pas du tout que ce film était interdit au moins de quoi que ce soit. Et c'est à revoir, Daniel Duval, ils sont tous sublimes. Mais c'est vrai que moi, mes parents ne regardaient pas très très bien. Je pense que ce film, j'ai dû le voir à 11 ans. Alors que effectivement,
ils regardaient pas bien, c'était interdit au moins deux.
Mais
peut-être qu'à l'époque, il y avait que le carré blanc.
Je vous rappelle qu'on fumait quand même dans les maternités, dans les voitures.
Dans les voitures,
ils s'en foutaient complètement.
Et on n'avait pas la ceinture sécurité, ni de casque sur le moto.
Donc je regardais tout. Et vous, Mehdi, il y a un film comme ça qui est resté en vous, qui vous a éventuellement choqué, un peu traumatisé comme Anne Marivin, mais qui reste pour autant un bon souvenir aujourd'hui?
Non, de toute façon, tout ce qui était choquant, on m'interdisait de regarder la télé. Ma mère regardait directement les programmes, dès qu'elle voyait moins de 12, c'était au lit. Non, je suis plutôt resté bloqué sur les comédies, quoi. Les comédies pures, comme les comédies de avec Pierre Richard, Depardieu.
Et au point de d'imiter et de faire les répliques.
Oui, bien sûr. Ça m'a collé.
Vous avez vu cette vidéo, quand même, avec Gérard Depardieu, où ils sont sur un banc tous les deux, ils tournent ensemble, mais c'est une pause. Et il est en train de saouler Depardieu avec toutes les répliques de la chèvre.
Ouais, parce que, j'ai fait ça 15 ans à mes potes, et là j'ai Gérard à côté de moi, 2 minutes, qui était sur son téléphone entre deux séquences, sur le film La Dream Team. Hop, on place. Et puis je me suis dit, vas-y, hop, on se lâche et puis on va faire une petite réplique, quoi.
Je trouve que vous avez la même fraîcheur, le même naturel que Lucien Jean-Baptiste. Excusez-moi, j'ai ce flash-là dans votre débit, dans votre joie de partager, de raconter des histoires. Et quelque part, l'absence totale de barrière dans ce que vous racontez. C'est-à-dire, vous dites, allez, c'est quoi, je vais le dire. Sans fil, c'est pas grave, je vais le dire. Il n'y a pas de non-dit, là.
Bah, vraiment, pas de temps pour les regrets, quoi. Parce que je me propulse toujours une heure après l'événement et je me dis, j'aurais dû, et puis voilà, finalement je fais.
C'est cool.
Pour finir, un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Anne, génial. Je vous offre la dernière revue Polka du printemps 2017. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand reportage sur la présidentielle, une comédie française, les candidats en coulisses. Et après vous avoir vu dans Chez nous de Lucas Bellevaux, je me suis dit que ça allait pouvoir correspondre. Et c'est vraiment passionnant. C'est toujours d'une excellente qualité,
ça
Polka, de toute façon.
C'est fascinant, la campagne.
À la fois dans les photos, dans les reportages. Et puis ça tombe bien, puisqu'en effet, on a une belle matière avec cette campagne présidentielle. On n'est pas tout nu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est le syndrome Anne-Marie Vint. D'un coup, je commence à partir dans les trucs. Mais
c'est pas de votre faute.
C'est ça. Et pour vous, Mehdi, je vous offre un bouquin de Bernard Pasquito et d'Olivier Biscay.
Il lit pas.
Non, mais là, je veux dire, dans le train.
Oh là là, il lit pas du tout. Oh là là.
C'est aux éditions Albin Michel et ça s'appelle Les politiques aussi ont une mère, puisque dans le film Babyphone, vous avez un rapport, on va dire, un peu contrarié avec le personnage qui incarne votre mère.
Exactement.
Et là, c'est les secrets de famille autour des politiques. Fillon, Le Pen, Mélenchon, Bayrou, Valls, Macron, Le Maire, Sarkozy. Quelle mère avait-il? Comment les ont-elles conduites vers la victoire ou pas, le pouvoir? Qu'est-ce que ça révèle d'une personnalité? Voilà, c'est les liens à tisser entre
ces... C'est très gentil. Voilà, je vais commencer dans le train, là, puisque on part au Mans.
Il y a quand même une question qu'on n'a pas posée à Mehdi Sadoun.
Oui.
Vous avez forcément un projet musical, parce que amoureux de musique comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas vous contenter de laisser ces années de plaisir et de délire sur le bas-côté de la route, c'est pas possible.
C'est marrant que vous posiez cette question, parce que c'est dans un coin de ma tête, et puis il y a un petit rendez-vous là dans une semaine. Donc,
C'est dans un coin de la tête, mais le rendez-vous c'est dans une semaine.
Non, c'est dans un coin de ma tête depuis des années, enfin d'accord. C'est vrai que les premiers amours reviennent, et puis reviennent automatiquement, on n'a pas spécialement envie on vit avec notre passé, notre vécu, et puis on a souvent envie que notre vécu se retrouve un petit peu dans les projets
futurs. Il faut aller au bout de ses passions et quel serait le style du projet? Le style?
Alors je crois que ce serait sérieux. Plus sérieux que...
Méditer,
mais le reggae d'un seul,
c'est pas. Attention. Je sais pas encore, non, on doit en discuter. Voilà.
Et c'est vous seul ou c'est au sein d'un groupe?
Non, ça sera une collaboration avec des auteurs. Voilà, vaut mieux traiter avec des personnes qui savent faire.
Donc des auteurs pour faire le texte et vous composez les musiques?
Non, simplement l'interprétation, ça me suffit.
Uniquement. Vous voulez pas être plus impliqué dans la fabrication du titre?
Bah si, peut-être plus tard, mais pour l'instant je laisse à 100% les compositeurs, 100% les auteurs, et puis il y en a qui font très bien leur travail, et puis moi j'essaierai de faire le mien comme il faut.
Vous nous promettez s'il vous plaît de nous tenir au courant quand même?
Ouais, promis.
Et un spectacle d'imitation, ce serait magique.
Ouais, il y en a qui font ça très bien. Donc
Mais ouais, vous le faites bien aussi.
Voici des excuses à présenter, Daniel.
Oui, désolé pour Anne-Marie Vint qui nous a fait du nagui pendant cette émission, en tentant lamentablement de prononcer des mots de plus de 2 syllabes. Ici, on a l'habitude de ce genre de péripéties, mais ça reste néanmoins navrant. Désolé pour les fans de Michel Jonas qui ont découvert ce matin qu'il était en bout de course, en fin de vie, en train de s'endormir durant le tournage de Babyphone. Tu nous manques, Michel. Désolé pour les fans fachos d'Anne-Marie Vint. Dieu sait qu'ils sont nombreux à nous écouter et qui ont été déçus de découvrir qu'elle n'était pas si raciste que ça. Je vous rassure, les amis, dès qu'on n'est plus à l'antenne, elle est monstrueuse. Elle a même demandé la peine de mort pour les migrants, c'est pour vous dire. Désolé pour Guillaume Canet qui a découvert qu'il avait couché avec Anne-Marie Vint. Et désolé pour Justin Bieber qui a découvert qu'il ne coucherait plus avec Anne-Marie Vint.
Merci Daniel Morin. Babyphone sort.
Timberlake.
Beaucoup d'énervités, là.
Timberlake, pas Bieber.
Baby.
Et il n'y a pas de personne désolé pour Mehdi Sadoun. Ah ouais, même pas pour un méditer.
T'as tout pris.
Quoi.
T'as tout pris.
Il n'y a que moi qui ai pris.
Mais elle s'acharne.
Babyphone sort le 8 mars, mercredi prochain. Anne-Marie Vint et Mehdi Sadoun étaient nos invités. Merci mille fois. Portez-vous bien. Merci mille fois. Et c'est Michel Simès, malheureusement, qui sera notre invité demain.
Un excellent livre.
On ne savait pas qui inviter, donc on a pris un invité comme ça, au hasard.
Quelqu'un a un autre cadeau?
Non, c'est bien.